Bonjour à tous, je m'appelle Yvan Tina. Je suis ici avec deux artistes français, avec Roger Malina, pour une discussion alors qui va tourner autour de l'art, des enjeux environnementaux et puis je pense des jeux vidéo, de la biologie et tout ça. Donc je suis avec Sandra et Gaspard Bébé Valérian, qui sont artistes à Central Track, la résidence universitaire de l'Université du Texas, et avec Roger Malina, qui nous accueille pour ce podcast. Alors, ce serait peut-être bien pour les auditeurs de vous présenter et de dire qui vous êtes et pourquoi vous êtes là.
Oui, alors bonjour, je suis Sandra Bébé Valérian, donc je suis artiste. Je travaille avec Gaspard Bébé Valérian depuis 2004, donc ça fait déjà quelques années. Et depuis le début, on travaille avec les nouveaux médias, soit comme plateforme de diffusion, soit comme médium. Et les années de pratique nous ont de plus en plus amener à questionner le rapport que nous entretenons avec la technologie et comment est-ce qu'elle forme nos sociétés actuelles. Gaspard, peut-être tu as autre chose à ajouter.
Non, c'était bien. Enfin,
mais introduis-toi quand même.
Donc, je suis Gaspard, je travaille avec Sandra et voilà. Donc, on a un binôme. On travaille beaucoup sur des questions environnementales, effectivement. La plupart de nos pièces sont des œuvres qui croisent effectivement les techniques et qui souvent impliquent le spectateur, le public, sans forcément lui donner une réponse claire. C'est plus en fait, moi j'ai le sentiment que les travaux qu'on réalise sont plus des questions ouvertes. Des questions ouvertes, effectivement beaucoup avec la question de l'environnement, mais aussi beaucoup des questions globales de société, notamment sur la question de l'énergie. Et sur la question de la technologie qui aurait la technoformation, on pourrait dire, de notre société.
Donc, je suis Roger Malina, je suis astrophysicien réformé, on dit comme ça en français, ouais. Et j'ai monté ici à Dallas le labo Art Science. Et donc, je vais rebondir sur Gaspard pour peut-être lancer. Donc, j'aime beaucoup comment tu as terminé sur les questions ouvertes. Et donc, là, en effet, en bavardant ensemble, moi, je suis à Dallas depuis 3 ans, Yvan depuis
un an et demi,
vous depuis 4 semaines. et en effet, vous avez constaté en arrivant qu'il y avait que les questions ouvertes n'étaient pas formulées de la même façon. Quand vous avez changé de contexte entre la France et le Texas, et que, par exemple, sur les questions autour du gaz de schiste, vous n'avez pas entendu du tout les mêmes réponses ou discours. Je ne sais pas, vous voulez rebondir sur ça.
La dernière fois que vraiment la question du gaz de schiste s'est posée en France, il y a eu beaucoup de mouvements, on a eu beaucoup de réserves de la part des citoyens, et je pense que ça a été entendu par le gouvernement qui a reculé sur certains sujets, mais qui maintient quand même l'idée qu'il faut, expérimenter pour trouver des méthodes d'extraction qui soient plus respectueuses de l'environnement. En arrivant ici, on est dans un contexte où l'exploitation du gaz de schiste est une réalité. C'est une réalité, il y a des millions de sites d'exploitation, il y a des millions de puits, et cela a commencé il y a déjà plusieurs années. Donc on arrive dans un contexte où les conséquences sont aussi beaucoup plus visibles, mais en même temps on a un discours qui est assez travaillé, pour exposer d'autres arguments, et notamment des arguments qu'on n'a pas trop entendus jusqu'alors en France. Notamment l'argument géopolitique, qui est assez intéressant, puisque ce qu'on entend, c'est que l'indépendance énergétique des États-Unis repose notamment sur l'exploitation du gaz de schiste, et que autant il y aura de production intérieure, et moins il y aura besoin de faire appel à des pays qui sont souvent des pays dont les valeurs sont très éloignées de celles des Américains. Donc on a un discours de l'énergie liée au patriotisme, à la liberté, versus des énergies qui sont soutenues par des pays dont on se passerait bien.
Donc une question qui est peut-être ouverte en France et qu'il faut expérimenter. Ici, au Texas, c'est plutôt une question décidée. Et en effet, c'est vrai que depuis que je suis là, il y a très très peu de discussions dans les médias ou les réseaux sociaux ou quand on rencontre des gens sur ces questions. Donc c'est quand même intéressant que dans ce monde tellement lié par l'Internet, que ces questions comme ça sont articulées de façon tellement différente, dont la question des technologies, bien sûr.
Ouais. Et en fait, on sent que c'est quand même très culturel ici. C'est-à-dire que c'est pas juste une question de désinformation ou d'information, c'est que y a une dimension culturelle qui est forte, qui est le fait que les citoyens américains ont un autre rapport aussi au paysage, un autre rapport aussi à la consommation et à la définition de leur propre autonomie. Donc en un sens, c'est assez drôle parce que on pourrait imaginer plus de personnes impliquées ou sensibles à un moment aux questions environnementales ou même de santé publique, parce qu'il s'agit à un moment les conséquences notamment au niveau de l'extraction du gaz de schiste sont des questions de santé publique. On pourrait imaginer plus de personnes mobilisées, et c'est pas juste une histoire d'information, parce que l'argument spontané qui viendrait ce serait mais c'est parce que les personnes ne sont pas informées. Non, c'est qu'il y a une acceptation, certes parce qu'il y a un travail qui est fait, hein, de conviction. Enfin, à un moment, il y a un travail qui est fait, comme le disait Sandra.
Notamment, actuellement, il y a des spots publicitaires, chose qu'on, je pense qu'on aurait du mal à voir en France, c'est des spots publicitaires pro-fracking, qu'on voit, voilà, qui sont largement diffusés. Je pense que ça en fait quand même aussi quelque chose qui marque les esprits.
Donc vous êtes artiste en résidence à Dallas jusqu'à la fin de l'année. Vous allez faire une performance. Donc en ce moment, vous êtes immersé dans le sujet, si j'ai compris. Oui. Donc comment, en effet, comme tu disais, Gaspard, c'est vraiment un fond culturel. C'est pas simplement une question d'information ou d'être mal informé. Donc comment vous allez traduire cette enquête de terrain sur une performance, éventuellement des œuvres artistiques. Vous avez des pistes ou...
On va travailler d'une part sur le régime sensoriel pour parler de ces tremblements de terre. Il faut savoir qu'un des arguments qui est souvent utilisé, puisque on sait aujourd'hui que certains tremblements de terre sont provoqués non pas par le fracking, mais particulièrement par l'injection des eaux usées à très haute profondeur. Donc ces tremblements de terre sont répétés, sont provoqués donc par l'homme, mais ont des magnitudes assez faibles. Donc on a beaucoup de gens qui disent oui, mais ces tremblements de terre, finalement, ils sont tellement faibles que ça n'a pas beaucoup d'impact. Mais les gens les ressentent, hein, et il y a des dégâts, et surtout, ils sont extrêmement récurrents.
Il y en a eu déjà une centaine cette année ou quelque chose,
c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et donc, notamment en utilisant des infrabasses, donc ça, c'est pour le régime sensoriel. On va utiliser beaucoup de vidéos aussi, de projections vidéo.
Vous allez faire ça en temps réel ou
Oui. Oui.
Et ensuite, parce que là, en effet, ça devient intéressant parce que, comme vous disiez avant, c'est des phénomènes normalement naturels, hein, donc on n'y prête pas tellement d'attention. Mais dès que c'est des phénomènes humains, on les écoute autrement.
Oui, puis après, il y a aussi l'idée d'arriver à conjuguer les diversités de points de vue. C'est-à-dire que, autant en France, et d'ailleurs c'est sujet à débat, mais c'est vrai qu'on a on a peut-être les prémices d'une résistance contre le gaz de schiste. Là, ici, on sent que c'est communément, globalement accepté. Eh bien, pour autant, on ne peut pas non plus considérer que c'est si simple ou si évident. C'est un sujet assez complexe. Donc, on va travailler sur la diversité des points de vue. Donc, sur la question de la désinformation, sur la question aussi des différents arguments employés. Et pour faire ça, plutôt que d'avoir un patchwork où on met tout côte à côte, on a fait le choix de travailler sur un fil, sur une fiction. Une fiction qui pourrait relier tous ces éléments, qui sont à la fois des éléments d'archives, des éléments également qu'on connecte pas seulement au gaz de schiste, mais à la notion de catastrophe en général, dans la culture américaine, notamment le fameux Dust Bowl, qui est un phénomène, je ne sais pas si on pourrait dire climatique, mais assez particulier, propre à l'histoire du Texas, et qui a duré 10 ans et qui a transformé durablement l'agriculture et le paysage même.
Et qui a provoqué la migration de près de 3 millions de personnes.
Donc c'est une migration climatique déjà.
Mais vraiment provoquée par une activité humaine.
Alors moi j'aurais une question par rapport à cette notion de fiction, c'est qu'il existe une tendance dans l'art contemporain aujourd'hui à faire justement usage des fictions, ça s'appelle les fameuses dystopies, qui sont très courantes aujourd'hui, même dans le bio-art, où on invente des mondes possibles, consiste à inventer des potentialités. Qu'est-ce que la fiction, vous, en tant qu'artiste, permet comme stratégie?
Je pense que c'est une question de projection. Surtout que c'est nous, dans nos récits, en tout cas, on laisse beaucoup d'ouverture. Et on donne vraiment la possibilité aux personnes de remplir des blancs, d'imaginer avant, d'imaginer après. Mmh. Et je crois que ça, c'est vraiment la puissance qu'il peut y avoir dans une écriture narrative qui est fictionnelle.
Moi, j'ai l'habitude de dire qu'à travers la fiction, on atteint plus le réel. C'est-à-dire qu'on peut avoir un parti pris de documentariste ou à un moment d'être inscrit dans la vie réelle et d'essayer de la retranscrire le plus vraisemblablement possible. Mm-hmm. Mais la réalité, c'est que dès qu'on passe à travers un support, dès qu'on passe à travers un instant T que l'on fige, on n'est plus dans la réalité. Parce qu'en fait, c'est quelque chose de complexe, la réalité. C'est quelque chose qui est subjectif, c'est quelque chose qui passe par différentes formes de perception, qui passe par des contextes, par des cultures, des sensorialités aussi. Mm-hmm. Et le fait de passer par la fiction, c'est une façon peut-être de mettre tout le monde d'accord sur un cadre qui, dès le départ, dit « Ok, ça n'est pas réel, mais à partir de ça, du coup, on va être dans la projection, comme le disait Sandra. » C'est aussi la force, d'ailleurs, de la lecture, de l'écriture et de la lecture. La lecture, au final, c'est une forme de cinéma, mais au long terme. Sauf qu'en fait, il emprunte à chacun nos imaginaires propres. Donc, à un moment, s'appuyer sur la fiction, c'est justement sous-tendre plus fortement la réalité. C'est encore plus offrir la possibilité aux personnes qui lisent, qui interagissent, qui visionnent, de se questionner et peut-être de réfléchir sur leur environnement réel.
Je vais injecter mon dada actuel. Donc, en effet, le travail de l'artiste fait entrer dans l'espace personnel des choses qui, à première vue, sont assez abstraites. Mm-hmm. Donc, en effet, là, vous venez d'expliquer sur le gaz de schiste, mais c'est à 500 mètres sous le sol, on ne le voit pas. Il y a des tremblements de terre, mais on nous dit qu'il y a le problème avec la pollution de l'eau, etc. Donc, en effet, c'est des choses qui sont des on-dit. et la fiction permet de faire rentrer ça dans le personnel. Et pour moi, ça fait partie d'une discussion plus générale, où en effet, il y a tellement de choses qu'on essaie de nous expliquer aujourd'hui, avec lequel on n'a aucune expérience journalière. C'est vraiment des choses qui sont abstraites, ça vient d'experts. Et donc là, je crois qu'en effet, le travail de l'artiste, c'est un problème d'appropriation et de digestion. Et la narration, c'est un projet de digestion. Donc on élimine des choses, on retient certaines choses, et après, il y a un fil conducteur dans le narratif. Et en effet, ça permet de prendre des choses qui sont peut-être assez abstraites et de les contextualiser d'une façon très personnelle. Enfin, c'est peut-être une autre réponse à ta question.
Ouais. Mais typiquement, c'est vrai, c'est souvent même, c'est la même démarche, la même réflexion, même lorsqu'on crée une pièce, c'est que En fait, on est obligé de simplifier. C'est-à-dire qu'on a le sentiment des fois d'avoir une approche schématique ou simpliste parce qu'en fait, les choses qui nous entourent sont tellement complexes, ça se traverse, ça s'influence les unes les autres qu'à un moment, le fait à un moment de se rassembler, en fait, on a besoin d'une histoire, on a besoin d'un mythe. L'histoire de notre histoire à tous, elle est jonchée, jalonnée par des histoires. Et ça, c'est un exercice de simplification qui, à mon avis, est nécessaire parce qu'il permet justement à un moment de mettre sur le côté toutes les problématiques. Si on devait prendre les choses dans une globalité, au même titre par exemple qu'un analyste ou un économiste, où effectivement on va prendre les choses dans une globalité, là en un sens on simplifie et c'est arbitraire. C'est absolument arbitraire, c'est effectivement, ce n'est pas objectif, ce n'est pas distancié, mais c'est une proposition. C'est en ce sens-là qu'on peut dire que c'est totalement arbitraire, c'est parce qu'en fait c'est une proposition et on est libre ou pas de la prendre. Mais si on arrive à embarquer les personnes dans cette proposition, en un sens, je crois qu'on arrive beaucoup plus sur un exercice de projection.
Mais au lieu d'utiliser le terme de simplifier, moi je dirais plutôt trancher. Je pense qu'on tranche vers une hypothèse pour pouvoir réouvrir et se concentrer sur certaines problématiques et pour pas qu'on se perde dans une multiplicité au préalable qui serait de dire alors ça, ce que vous dites c'est vrai mais c'est pas tout à fait ça. Et surtout sur un projet comme celui-ci, je pense qu'il y a tellement de controverses à tous les niveaux qu'à un moment donné, la fiction nous permet de trancher. Par exemple, on tranche en disant, dans cette fiction-là, les tremblements de terre sont provoqués par l'activité liée au gaz de schiste. Nous, on tranche dans cette narration. Alors que si on voulait avoir une approche documentaire, on pourrait toujours en discuter pendant encore très très longtemps. Et d'ailleurs, le temps de la discussion, qui est toujours important, hein, il faut laisser la place au temps de discussion, mais dans cette problématique-là, intervient aussi comme une stratégie. On gagne du temps. Ouais.
C'est un biais qui est à la fois une fragilité, mais à la fois une force. C'est-à-dire qu'en finalement, en prenant ce biais artistique, d'un côté, on reconnaît qu'on va faire un choix et qu'on tranche et qu'on va mettre de côté un certain nombre d'arguments, mais d'un autre côté, en même temps, ça s'assume, puisque finalement, on dit c'est un objet artistique. On ne peut pas remettre un moment en question un peintre qui a travaillé avec un certain spectre de couleurs en lui disant « Mais pourquoi tu travailles avec du rouge ?» En fait, non, ça lui appartient.
Donc, et on fait un bond dans le temps et on fait un bond dans une projection. Ce qui est pas, ce qui serait totalement réfutable d'un point de vue scientifique.
Dans le périmètre du vivant, ce que votre projet m'a en fait rappelé, c'est qu'en fait, parce qu'il y a des controverses qui, moi je m'intéresse aux formes de vie artificielle, par exemple, et je me rends compte que des artistes qui manipulent l'ADN. Font face à des controverses, voilà. Et je me demandais si vous connaissiez des artistes qui faisaient des modifications du vivant, mais plutôt à l'échelle géologique ou voilà, qui provoquaient des fracturations ou des
géologiques. Non, moi je pense effectivement spontanément en t'écoutant au travail de Paul Von Hoose, et où je trouve que justement ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il a une dimension critique. Il y a un travail de démystification d'une part. Justement vis-à-vis des technologies de visualisation de l'ADN et des technologies de prospection policière, d'une part, et d'autre part, il est dans une dimension critique qui est de dire, en substance, vous avez pris pour authentique, pour absolument vrai, ces technologies-là, la technologie de visualisation de l'ADN, or, en fait, elles sont sujettes à des fragilités, elles sont sujettes à controverses également. Donc, en un sens, il est en train de prendre peut-être une des choses au niveau de la science, parce qu'en plus, c'est souvent lié à la criminalité, lié en fait à des questions quand même de fond, hein, la médecine. Et il est en train de dire, non, en fait, ce n'est pas absolument vrai. Enfin, le caractère de vérité totale que l'on attribue à ces images ne se vérifie pas.
Non, tu as tout à fait raison par rapport à Paul Von Hoose. J'avais lu un article qui portait précisément sur ça, sur son travail de détournement de l'alphabet, entre guillemets, génétique, que les scientifiques utilisent. Mais c'était juste, c'est parce que ça me faisait penser en fait au périmètre du vivant qui était votre base de travail en fait, parce que je crois que dans votre communiqué, vous dites la question du vivant, mais aussi, enfin, oui, vous parlez de l'intrication du vivant à la technologie qui est aujourd'hui un défi majeur dont on mesure à peine la portée. Donc, je pense que je me demandais quel était le périmètre dans lequel vous vous situez, parce que vous allez des jeux vidéo jusqu'aux cyanobactéries. Et, et voilà, c'était une remarque que j'avais à l'esprit. Peut-être.
Je crois qu'on a besoin de terminer la discussion. Ouais. Peut-être je vais retenir peut-être la phrase de Sandra sur la narration comme la comment on dit, c'est quoi le verbe, la tractation, non, pas pour trancher. Et je crois que c'est vrai que l'artiste a besoin de trancher. Il n'a pas les mêmes critères de sélection que le politique ou le scientifique. Et que la liberté de trancher, c'est aussi une façon
de mettre une
prise de position. Et bah écoute, je crois que là, on va s'arrêter là.
Bah écoute, très bien.
Il y a beaucoup à discuter. Merci.
Il y a beaucoup plus à dire.
Merci, merci beaucoup.
Ok.
Ok.